est 22h30 à Addis Abeba en Éthiopie et c'est Radio France Internationale que vous écoutez.
Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. La mise en garde de l'Union africaine contre une balkanisation de la République démocratique du Congo alors que le M23, appuyé par le Rwanda, poursuit son avancée dans l'est du pays, notamment dans le sud Kivu. Nous entendrons le commissaire paix et sécurité de l'organisation panafricaine. Et puis sur le terrain, la situation sécuritaire continue de se détériorer alors que Bukavu, chef-lieu de la province du sud Kivu, est désormais sous le contrôle des rebelles du M23 et de leurs alliés rwandais. Situation qui suscite une vive réaction de la communauté internationale. Nous reparlerons également de l'assassinat de Muhsin Hendrix en Afrique du Sud. L'imam ouvertement gay a été tué par balle samedi à Port Elizabeth dans le sud du pays. Une attaque ciblée selon le porte-parole de la police. Une enquête est en cours. Le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine alerte donc sur le risque d'une balkanisation de la République démocratique du Congo. Bankole Adeoye appelle au retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées, sans citer nommément le Rwanda.
We are all very concerned about an open.
Nous sommes tous très inquiets face au risque d'une guerre ouverte à l'échelle régionale. Nous appelons à la prudence et demandons au M23 et à ses soutiens de déposer les armes et de se retirer de l'aéroport de Goma ainsi que des autres zones occupées. Nous refusons toute tentative de balkanisation de l'Est de la RDC. Le Conseil et l'Assemblée réaffirment avec force leur attachement au respect et à la préservation de la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. L'Union africaine appelle à un dialogue large et inclusif pour mettre fin à cette crise.
Propos recueillis par Florence Maurice. Et puis sur le terrain, la situation sécuritaire continue de se détériorer alors que les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda ont pris le contrôle de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Une offensive qui a provoqué une vive réaction de la communauté internationale. Ce dimanche, le Royaume-Uni parle d'une violation flagrante de la souveraineté de la RDC et un danger pour la stabilité régionale. À Kinshasa, les précisions de Pauline Azidi.
Le M23 et son allié rwandais est en effet entré à Bukavu. Ce week-end, une colonne de soldats a été aperçue ce matin marchant vers le centre-ville, alors que la nuit dernière avait encore été marquée par des tirs. Depuis ce matin, les témoins expliquent que la situation est calme dans la ville. Il y a de nouveau des gens dans les rues et peu de circulation, mais ça reste timide. C'est très calme, les gens se baladent, mais moi je préfère rester à la maison, confie un habitant. Une occupation dénoncée par les autorités de Kinshasa, Bukavu, Goma et tous les autres coins occupés dans le nord Kivu et le sud Kivu constituent le symbole de notre résistance, a déclaré à la mi-journée le ministère de la Communication, qui ajoute que contrairement aux résolutions de Dar es Salaam, aux appels au cessez-le-feu de la communauté internationale, le Rwanda s'entête dans son dessein d'occupation, de pillage, de crimes et violation des droits humains. Kinshasa qui continue de réclamer des sanctions ciblé contre son voisin. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et la présence du M23 à Bukavu a été confirmée par un porte-parole de l'armée congolaise à une quarantaine de kilomètres au sud, à la frontière entre Bugarama au Rwanda et Kamanyola en République démocratique du Congo. Les traversées au poste frontière étaient bloquées ce dimanche. Le récit de Lucie Mouillot.
À Bugarama, personne ne s'approche du poste frontière fermé depuis hier matin et l'absence des agents de l'immigration congolaise à leur poste. Les habitants rwandais affirment avoir entendu toute la journée de samedi sans pouvoir en identifier les auteurs de nombreux tirs de l'autre côté de la frontière, poussant la population à s'enfermer dans leur maison. Des tirs qui ont résonné notamment sur les collines de Ngomo, surplombant la plaine de Kamanyola dans la province du Sud Kivu. Aucun passage n'est donc autorisé depuis deux jours face à l'incertitude de la situation, plus calme ce dimanche. Plusieurs dizaines de chauffeurs de camions à destination d'Uvira attendent le long de la route menant vers la frontière. Depuis la rivière de Rusizi qui sépare le Rwanda et la RDC, presque personne n'était visible sur les rives congolaises. Ces derniers jours, de larges déplacements de plusieurs milliers de personnes venant de Kamanyola étaient signalés sur la route vers le sud, beaucoup trouvant refuge au Burundi. Lucie Mouillot, de retour de Bugarama, RFI.
RFI, 19h34, en temps universel. Stupeur en Afrique du Sud après l'assassinat de Muhsin Hendrix, premier imam ouvertement gay au monde. Le religieux défenseur de la minorité LGBT a été abattu dans sa voiture ce week-end. Pour de nombreuses associations LGBT, il pourrait bien s'agir d'un crime de haine. Mais pour l'heure, la police annonce que le mobile n'est pas encore connu et qu'une enquête est en cours. À Johannesburg, le récit de Valentin Hugues.
Sur les images d'une caméra de surveillance, on voit un pick-up gris barrer la route de Muxin Hendrix. Un homme vêtu de noir, visage dissimulé sous une cagoule, sort et s'approche de sa fenêtre. La police de la région du Cap-Oriental confirme que samedi matin vers 10h, l'imam de 58 ans a été tué par balle. Deux hommes sont recherchés et le mobile n'est pas encore connu. Mais plusieurs associations de défense des droits LGBT craignent qu'il s'agisse d'un crime de haine. En 1996, l'imam rend public son homosexualité et devient le premier imam ouvertement gay du monde. Grand défenseur des droits des communautés marginalisées, sa mosquée proche du Cap était un refuge pour les musulmans queer. Récemment, il déclarait ne pas vouloir engager de garde du corps malgré son militantisme. Selon lui, le besoin d'être authentique était plus grand que la peur de mourir. Le Conseil judiciaire musulman d'Afrique du Sud a aussi réagi en condamnant ce meurtre et toute violence contre la communauté LGBT, rappelant tout de même ses profonds désaccords avec les positions de l'imam. Selon plusieurs témoignages en ligne que la police n'a pas confirmé, Muxin Hendrix était en route pour marier un couple de femmes lorsqu'il a été abattu. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Le gouvernement ougandais accélère le transfert du procès de Kizza Besigye d'un tribunal militaire vers une cour civile. Déclaration ce dimanche du ministre de l'Information qui demande à cette figure de l'opposition de mettre fin à sa grève de la faim entamée le 10 février pour dénoncer sa détention, je cite, illégale. L'opposant Kizza Besigye, ancien médecin personnel du président ougandais Yoweri Museveni, est dans le collimateur du gouvernement depuis son ralliement à l'opposition il y a 25 ans. Human Rights Watch appelle la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à prendre des mesures pour mettre fin à la répression de l'opposition et de la dissidence au Mali. Dans une lettre adressée jeudi à son président et à plusieurs représentants de l'Union africaine, l'ONG dresse une liste détaillée de prisonniers politiques ou d'opinion et demande à l'institution d'engager un dialogue avec l'État malien pour mettre un terme à ces graves violations des droits humains et de la liberté d'expression.
Nous avons recensé une dizaine de cas d'opposants politiques, d'activistes politiques, des figures de la politique malienne, de l'opposition qui ont été arrêtés de manière arbitraire ou qui sont toujours portés disparus. Les arrestations des opposants se multiplient. Les autorités utilisent des accusations fallacieuses qui sont politiquement motivées pour emprisonner des opposants. Donc les autorités ont réduit au silence les voix dissidentes. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples devrait engager un dialogue solide avec les autorités militaires pour garantir la protection de ces activistes, de ces opposants, des journalistes.
Et pourquoi vous adressez-vous aujourd'hui à cette commission de l'Union africaine ?
Les autorités maliennes ont quitté la CEDEAO. Les autorités maliennes n'ont pas quitté l'Union africaine ni la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui est toujours compétent pour s'enquérir de la situation des droits humains au Mali.
Ilaria Allegrosi, chercheuse chez Human Rights Watch, interrogée par David Bachet. Ce dimanche, au Caire, la Confédération africaine de cyclisme tenait ses élections, élections particulièrement importantes, alors que fin septembre, le continent organisera ses premiers championnats du monde sur route à Kigali, au Rwanda. Contre toute attente, après plus de 20 ans de règne, l'Égyptien Mohamed Wagi Azam a été battu d'une seule voix au profit du président de la Fédération ivoirienne, Yao Ala Kwame, un résultat dont se réjouit l'un de ses soutiens, le Béninois Romuald Azoumé.
Il fallait résolument changer parce que ça n'allait plus du tout. Et le mieux, c'était qu'on prenne la personne qui est déjà dans la bande et qui connaît la maison et qui peut mieux réorganiser la maison. C'est pour ça que notre choix a été porté sur Ala Kwame, qui était le vice-président. Voilà. Ça a été très difficile parce que nous avons gagné à une seule voix.
C'est important, encore une fois, cette année où l'Afrique va pour la première fois organiser les championnats du monde de cyclisme à Kigali, au Rwanda. Il faut rebooster le cyclisme africain.
Oui, c'est important parce que vous savez, Olivier, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique n'est pas du tout bien. C'est que nous avons du talent, mais nous-mêmes, nous ne faisons rien pour nous-mêmes. Nous ne faisons rien pour que ça change. Nous-mêmes, nous ne faisons rien chez nous, mais nous tous, nous voulons devenir chefs. Et quand on devient chef, on ne fait pas grand-chose. L'Afrique doit être unie. Nous travaillons pour l'Afrique. Nous devons construire l'Afrique. Et l'Afrique a autant de talent pour résister, et non seulement résister, mais pour réussir dans le cyclisme et dans tous les autres sports. Donc, c'est aux Africains de jouer. Nous, les présidents des fédérations, nous ne devons attendre personne pour faire au mieux chez nous déjà, avoir une crédibilité pour pouvoir se faire respecter et financer nos tours et nos activités correctement.
Le Béninois Romuald Azoumé, interrogé par Olivier Pron. Il est 20h et bientôt 40 minutes ici à Paris. Excellente soirée à l'écoute de Radio France Internationale.